VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 3 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, manifestation ce week-end de partisans et d'opposants au président Ibrahim Boubacar Keïta.
En Mauritanie, l'opposition crie à la fraude après les élections législatives, régionales et locales de samedi.
En République démocratique du Congo, la police a dispersé hier à Lubumbashi une marche des partisans de l'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi.
Le jeune rappeur et opposant congolais Bob Elvis Massoudi, porté disparu mercredi dernier, retrouvé sain et sauf hier à Kinshasa.
Une émeute dans une prison libyenne a permis l'évasion de plusieurs centaines de détenus au sud de Tripoli.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
À Bamako, des milliers de partisans du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, ont manifesté hier pour le soutenir à 2 jours de sa prestation de serment et au lendemain d'une marche de l'opposition. En effet, l'opposition réunie autour du candidat malheureux Soumaïla Cissé a réussi samedi ce qu'elle a appelé la plus forte mobilisation depuis la réélection du président Keïta, dont elle continue à contester la victoire. Notre correspondant Kassim Traoré a suivi ces deux manifestations.
L'opposition était à sa 4e marche de contestation et de dénonciation de la fraude électorale. En plus de Soumaïla Cissé, 8 autres candidats malheureux de la présidentielle de juillet et août dernier étaient à la marche de samedi. Pour Soumaïla Cissé, le peuple malien est en colère contre la communauté internationale.
À l'ensemble de la communauté internationale, de faire attention à la colère du peuple. Un peuple en colère, c'est quelque chose de dangereux. Il faut l'écouter à temps, le peuple malien. Il est en colère parce qu'on a volé son vote. Il est en colère parce que le mensonge devient la vérité dans notre pays.
Contre toute attente, hier dimanche, les partisans d'Ibeka ont envahi les rues de Bamako. Cette marche est une initiative du Conseil national de la jeunesse du Mali, des associations des jeunes leaders musulmans réunis dans une coalition dite des patriotes.
Tout à fait ! Moi, en tant que membre de la société civile, j'ai été dans tout le combat de ce pays. Et c'est normal que je sois là aujourd'hui. Préserver nos institutions, défendre nos institutions. On est en démocratie. Parce que la démocratie malienne a été une démocratie exemplaire.
Avec cette crise, une médiation est en cours afin de faire asseoir les 2 camps autour d'une même table. Les médiateurs espèrent rencontrer le président Ibeka ce lundi. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Mauritanie, l'opposition crie à la fraude alors que les résultats des élections législatives, régionales et locales de samedi se font attendre. Prévus hier soir, les premiers chiffres officiels sont maintenant attendus ce lundi ou même demain mardi. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
L'opposition mauritanienne accuse le pouvoir en place de recourir à ce qu'elle qualifie de fraude massive caractérisée, entre autres, par la manipulation des bulletins de vote, le vote multiple et le bourrage d'urnes. Le chef de la coalition électorale de l'opposition, Mohamed Ould Mouloud, s'en est également pris à la commission électorale, accusant ses membres d'être partisans et mal formés. Accusation rejetée par le porte-parole de la CENI, Mustapha Ould Sid El Mokhtar, qui attribue le retard dans la publication des résultats à la complexité du vote et aux pluies diluviennes qui ont isolé certaines contrées du pays. Le scrutin de samedi a attiré un nombre record de 98 partis politiques, dont ceux de l'opposition radicale qui avaient boycotté les législatives de 2013. Selon la CENI, le taux de participation tendait vers 70%. Les analystes considèrent ce scrutin comme un test pour le président Mohamed Ould Abdelaziz, bien qu'il se soit engagé à ne pas modifier la constitution afin de se représenter en 2019. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, il a été élu en 2009 et réélu en 2014.
Selon un article de presse, le Pentagone examine les moyens de retirer presque tous les commandos américains du Niger et de mettre fin à la mission de la plupart des unités d'élite de lutte antiterroriste à travers l'Afrique. Selon le New York Times, citant le Pentagone, des postes militaires au Cameroun, au Kenya, en Libye et en Tunisie seraient aussi fermés si le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, approuvait ce projet. Mais les États-Unis continueraient d'avoir une présence militaire importante au Nigeria et en Somalie.
La police a dispersé hier avec des gaz lacrymogènes une marche des partisans de l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, a appris l'AFP de sources policières. Ces protestataires réclamaient la libération de 62 personnes arrêtées la veille et détenues à la prison de Kasapa, a expliqué Sonville Mukendi, porte-parole d'Ensemble pour le changement. Il est aussi question de la libération de 125 autres militants emprisonnés en marge de deux tentatives infructueuses de M. Katumbi de rentrer en RDC à partir de la Zambie les 3 et 4 août derniers pour pouvoir déposer son dossier pour la présidentielle du 23 décembre prochain.
RDC toujours, le jeune rappeur congolais Bob Elvis Massoudi, opposé au président Joseph Kabila et porté disparu depuis mercredi, a été retrouvé dimanche à Kinshasa. Bob Elvis a été libéré par ses ravisseurs qui lui ont pris tout ce qu'il avait sur lui, téléphone, porte-monnaie, habits, a déclaré à l'AFP Willy Kanyinda, le porte-parole de son groupe musical. Il est très fatigué, mais n'a pas subi de violence physique lors de sa détention, a ajouté M. Kanyinda, qui a précisé que l'identité des ravisseurs n'était pas connue.
Une émeute dans une prison libyenne a donné lieu à l'évasion de plusieurs centaines de détenus. L'incident s'est produit au sud de Tripoli, où se déroulent de violents combats depuis une semaine, Gabi Dorsil.
La police judiciaire de la capitale libyenne précise dans un communiqué que le nombre d'évadés se situe autour de 400 et que les geôliers n'ont pas cherché à bloquer leur fuite afin de ne pas envenimer la situation. Les gardes voulaient épargner la vie des prisonniers, a déclaré la police. Selon l'AFP, la plupart des prisonniers sont soit de droit commun, soit d'anciens partisans du régime de Muammar Kadhafi qui ont été condamnés notamment pour meurtre au moment de la rébellion de 2011. Des milices rivales s'affrontent depuis une semaine près de la prison d'Aïn Zara, théâtre de l'émeute de dimanche. Au moins 40 personnes, en majorité des civils, ont trouvé la mort et plus de 100 ont été blessés dans ces combats, a indiqué le ministère libyen de la Santé. L'intensité des combats à Tripoli, accentuée ce week-end par des tirs de plusieurs dizaines de roquettes, a contraint le gouvernement d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale, à décréter l'état d'urgence dans la capitale libyenne et ses environs.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, la dépouille du sénateur John McCain a été inhumée hier à l'Académie navale d'Annapolis dans le Maryland au terme d'une semaine d'hommage national pour le vétéran de la politique américaine. Monsieur McCain est décédé le 25 août à l'âge de 81 ans dans son fief de l'Arizona où il luttait depuis un an contre un cancer du cerveau. Il a été inhumé lors d'une cérémonie privée dans le cimetière de l'Académie navale près de Washington d'où le pilote de la marine était sorti officier en 1958.
La Grande-Bretagne s'est félicitée hier des regrets exprimés par la coalition militaire sous commandement saoudien après un raid qui a coûté la vie à 40 enfants le 9 août au Yémen. Mais Londres a demandé des éclaircissements et sur d'autres opérations meurtrières. De leur côté, les États-Unis, un des grands alliés de Riyad, ont parlé de pas importants vers une transparence complète. Samedi, la coalition qui intervient au Yémen en soutien au président Abderrabo Mansour Hadi face aux rebelles chiites houthis a reconnu des erreurs dans une frappe menée contre un bus le 9 août dans la province de Saada, fief des insurgés, et promis des sanctions.
Le Pakistan a qualifié d'incorrectes les informations selon lesquelles les États-Unis ont annulé une aide militaire de 300 millions de dollars à Islamabad, disant que Washington lui doit cet argent pour des dépenses liées à la lutte contre le terrorisme. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood, a fait ses déclarations 24 heures après que le Pentagone a révélé avoir décidé d'annuler cette aide parce que le Pakistan n'en faisait pas assez contre les groupes terroristes dans ce pays. Le chef d'état-major interarmes, le général Joseph Dunford et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doivent visiter dans quelques jours le Pakistan.
L'ancien ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, Boris Johnson, a dénoncé une fois de plus les propositions de Theresa May pour le Brexit, estimant que Bruxelles sortira victorieuse des négociations avec Londres.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Pour la 9e année consécutive, la Chine reste le premier partenaire commercial du continent africain. En 2017, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 14% pour atteindre 170 milliards de dollars. Au premier semestre 2018, ce volume a augmenté de 16% avec près de 99 milliards de dollars. 10 principaux programmes de coopération lancés à Johannesburg en décembre 2015 permettront à l'Afrique de disposer de 30 000 km de nouvelles routes, de 85 millions de tonnes de capacité portuaire par an, de plus de 9 millions de tonnes de capacité de traitement d'eau potable chaque année, de près de 20 000 mégawatts de capacité de production d'électricité et plus de 30 000 km de lignes de transmission et de transformation d'énergie. Environ 900 000 emplois seront créés en Afrique et il est aussi prévu la formation de plus de 40 000 fonctionnaires et techniciens africains en Chine. Beijing accueille ce lundi et mardi le forum sur la coopération Chine-Afrique. D'après la FAO et la Banque mondiale, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pourrait perdre entre 6% et 14% de son produit intérieur brut d'ici 2050 en raison de la pénurie d'eau qui touche la région depuis quelques années. Plus de 60% de la population de la région serait concentrée dans des zones affectées par un stress hydrique de surface élevée ou très élevée.
À présent, les sports avec Élisée Ungpatin. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football éliminatoire Cannes des moins de 17 ans, zone UFOA-B, le Bénin disqualifié par la CAF.
Les écureuils ne participeront pas aux éliminatoires de la Cannes de cette catégorie. Cette sélection vient d'être disqualifiée par la Confédération africaine de football. Et pour cause, 10 des 18 joueurs convoqués pour la compétition ont été jugés non éligibles après les examens d'IRM. Le Bénin, à qui il ne reste que 8 joueurs, ne peut donc pas disputer la compétition et est donc disqualifié.
Suite à cette situation, Élisée, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football sur convocation de son président s'est réuni en urgence.
Effectivement, Idrissa, et au terme de cette réunion qui aura duré plus de 3 heures, le comité exécutif a déploré cette situation qui met à mal la réputation du Bénin et de son football et rappelle que le ministère des Sports a joué un rôle important dans le but d'éviter qu'une telle dérive ait lieu en apportant un soutien substantiel pour la réalisation des tests supplémentaires d'IRM à Cotonou. Mathurin de Chacus rassure la population de ce que toute la lumière sera faite et les éventuelles mises en cause seront poursuivies. Il a précisé que le comité exécutif se réunira au plus tard le 4 septembre prochain pour statuer en regrettant tout de même l'image négative du Bénin que cette situation a renvoyée au reste du monde et réitère au peuple béninois sa volonté d'instaurer une nouvelle gouvernance fédérale résolument axée sur la transparence et la rigueur.
Super Coupe de Côte d'Ivoire, victoire du stade d'Abidjan et polémique.
Le club d'Abidjan a remporté cette coupe grâce à sa victoire de 2-1 face au Sporting Club de Gagnoa au stade Robert Champrou d'Abidjan. Cette super coupe devait opposer initialement la SEC Mimosa qui a réalisé le doublé coupe championnat au stade d'Abidjan, finaliste de la coupe nationale. Les Mimos en froid avec la Fédération ivoirienne de football ont décidé de ne pas prendre part à ce match.
Direction Cameroun et Heading Sport affrontera Lyon blessé de Futuni en finale de la coupe nationale.
La formation de la Leke a obtenu sa qualification en dominant Unisport de Rokam hier au stade militaire de Yaoundé après la séance des tirs au but 5-4, 1-1 après les 120 minutes de jeu. La finale de la 58e édition de la Coupe du Cameroun opposera donc Lyon blessé de Futuni à Edinsport de la Lekie. Les deux clubs disputeront leur première finale de l'histoire de Coupe nationale.
On reste au Cameroun pour dire que la FECAFOOT restera sous tutelle de la FIFA jusqu'en décembre 2018.
Ce mandat qui devait prendre fin le 31 août dernier a été prolongé jusqu'en décembre 2018 en raison du report des élections du nouveau bureau exécutif de la Fédération camerounaise de football. Elle devait être organisée par le comité de normalisation de la FECAFOOT mis en place par la FIFA en septembre après la dissolution du bureau exécutif de l'époque. Dans son communiqué, la FIFA indique de fait que le mandat de ce comité qui prenait fin le 31 août est prolongé jusqu'au 16 décembre 2018.
Enfin, basketball avec la Coupe d'Afrique l'Afrique des Nations des moins de 18 ans et le Mali sacré à domicile.
Oui, les cadets maliens ont battu en finale les Lionceaux du Sénégal 78-76. Le Mali a donc bataillé jusqu'au bout pour décrocher ce premier titre et faire la joie avec ses supporters. Un peu plus tôt, l'Égypte a complété le podium en battant l'Angola, championne sortant de la catégorie 89-118.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, on continue de commenter les décisions qui, pour le moment, compromettent sérieusement la participation de deux des principaux challengers du président Macky Sall à la présidentielle de 2019. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, et Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. L'un a vu la cour d'appel confirmer sa condamnation et l'autre a vu la cour suprême se déclarer incompétente suite à son recours pour s'inscrire sur les listes électorales. Les réactions avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Les citoyens ne sont pas toujours d'accord avec l'avis des observateurs de la vie politique sénégalaise. Si beaucoup estiment que la justice est instrumentalisée, Fanta Diallo, jeune sénégalaise, juge que les débats dépassent le cadre politique. Pour elle, il s'agit de restaurer des valeurs républicaines.
Nous avions confiance en Macky Sall parce qu'il avait donné les garanties. Il avait assuré dans son discours, il l'avait fait dans son programme. Aujourd'hui, je pense qu'il a trahi le peuple et de la plus vile des manières. Les gens doivent savoir que cette jeunesse-là ne se bat pas pour un homme. Cette jeunesse-là ne se bat pas pour un tel ou un autre. Il se bat pour restaurer un état de droit. Et la personnalité qui sera en mesure aujourd'hui d'assurer cet état de droit, d'assurer le respect des règles élémentaires, il pourra être au devant de la scène.
Les récentes décisions judiciaires concernant Khalifa Sall et Karim Wade font polémique au point que l'impartialité de la justice soit mise en doute par certains. Abdou Diop est un ingénieur d'une cinquantaine d'années. Pour lui, c'est au peuple de faire face.
Mais c'est une justice aux ordres. C'est une injustice, vraiment, pour vraiment paraphraser l'autre. Nous ne croyons pas à ces gens-là. Nous, on va se faire justice nous-mêmes. Puisque maintenant, c'est la jungle. Parce qu'actuellement, c'est une justice aux ordres. Et ils ne font que ce que veut le prince. Et nous, on va dire non. Nous sommes un peuple indépendant et démocratique. Et on ne va pas se laisser piétiner.
Pour d'autres, il est important que la justice puisse être un bouclier contre la mauvaise gestion des deniers publics. Atou Mbaye estime que la reddition des comptes est une chose primordiale dans une république.
Quoi que l'on puisse dire aussi, quand une personne est soupçonnée de détournement de deniers publics, elle doit faire face à la justice. Quand une personne veut diriger la destinée d'un peuple, elle doit être une personne de bonne foi, mais aussi un gestionnaire transparent pour rendre compte au moment opportun. Mais faire ce que l'on veut de l'argent du contribuable pour ensuite dire que c'est une cabale politique est irresponsable. Quiconque veut diriger ce pays devra être une personne transparente qui n'a maille à partir avec la justice.
Au Sénégal, les cas Khalifa Sall et Karim Wade continuent de diviser l'opinion publique. Si pour certains c'est une cabale du pouvoir pour écarter des adversaires déclarés, pour autres, la conquête du suffrage des Sénégalais passe par une gestion transparente. Quoi qu'il en soit, Khalifa Sall et Karim Wade voient leur chance de participer à l'élection présidentielle de 2019 être fortement compromise. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Les investissements chinois en Afrique, Pékin a signé plusieurs conventions avec les dirigeants guinéens et intervient dans divers domaines, notamment les mines. Mais la présence de la Chine en Guinée ne fait pas que des heureux, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
La Chine, l'une des nombreuses destinations du président guinéen Alpha Condé, y a obtenu plusieurs accords, des accords économiques mais aussi techniques. L'un des derniers actes officiels entre les deux pays est une assistance pour l'appui à la sécurité alimentaire, chiffrée à 6 millions de dollars et signée samedi en marge du forum sur la coopération Chine-Afrique. Dans le pays, le Made in China est sur presque toutes les lèvres, mais qu'en disent les Guinéens? D'abord, les réponses de quelques vendeurs en rencontré à Madina le grand marché de Conakry.
Ils font des commandes que nous autres ne pouvons pas faire. Et quand ils amènent leurs commandes, ils revendent à un prix plus bas que nous on peut revendre ici.
Maintenant, ce n'est pas la même qualité. Les produits turcs, les produits indes, c'est plus fort que les produits chinois. Comme les pompes, là, ça, les produits turcs, les produits indes, ça absorbe plus que les produits chinois. Quoi.
Chez certains consommateurs des produits chinois, il n'y a pas lieu de se plaindre car il y en a pour toutes les bourses.
Avec la marque chinoise, tout le monde peut avoir actuellement un Android. Même si ce n'est pas garanti, mais ça me permet de faire beaucoup de choses parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir un téléphone de grande marque.
Mamadou Saliou évolue dans la vente de téléphones de marque chinoise. Il dit ne pas se sentir protégé par le contrat qu'il a passé avec les Chinois.
Les Chinois avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années n'avons pas un contrat d'exclusivité dans le travail. Il faut à chaque fois avoir un contrat de 2 ans dans lequel contrat on te dit clairement que les produits qu'on te fournit, on a la latitude de les fournir à autant d'autres personnes aussi. Ça veut dire que tu n'es pas protégé.
Le secteur minier guinéen est dynamique depuis quelques années et la Chine entend y prendre sa place. En janvier, la société chinoise TBA obtient un accord d'investissement dans le domaine de la bauxite et de l'alumine. Il y a quelques mois seulement, la Guinée et Chalco, filiale du groupe Chinalco, ont signé une convention minière de 15 ans. Vraisemblablement, c'est la conséquence d'un accord cadre de prêt d'un montant de 20 millions de dollars signé l'année dernière entre la Chine et la Guinée. Selon plusieurs sources proches de ce dossier, la Guinée, qui obtient ce financement destiné à la réalisation d'infrastructures, va assurer aux entreprises chinoises des concessions minières au titre de contrepartie. Le chinois en Guinée, c'est aussi l'exploitation de bois dans le sud du pays. La coupe de bois dans cette partie de la Guinée est contestée. Les communautés ont même créé une association. Docteur Mamadi Onivogui est le chargé de communication de Touche pas à ma forêt.
Nous nous sommes rendus compte que dans le temps du général Ansana Conté, le contrat visait l'exploitation des forêts périurbaines. Mais maintenant, c'est tout dernièrement avec les manques de matières premières que subissait la société. La société aurait demandé au gouvernement guinéen de signer maintenant le protocole d'accord pour l'exploitation des 2 forêts classées de Ziama et de Djeki. C'est ce qui a fait mal à toute la jeunesse guinéenne et plus particulièrement celle de la forêt. D'où la mise en place du collectif Touche pas ma forêt pour défendre les 2 forêts.
Ziama et Djeki sont 2 forêts classées. Leurs défenseurs tirent la sonnette d'alarme sur d'éventuels crimes écologiques. D'autres parlent de menaces pour l'écosystème. Sur plus de 200 éléphants, il n'en reste qu'une 20aine, alerte le porte-parole de Touche pas à ma forêt. Zakaria Camara pour VOA Afrique. Conakry.
En République centrafricaine, de nombreuses réactions ont été enregistrées après les rencontres organisées séparément par l'Union africaine et Moscou avec des groupes armés du pays. Fin août, à l'initiative de l'UA, 14 groupes armés ont harmonisé leurs revendications dans un document unique. Dans la foulée, à Khartoum, au Soudan, la Russie a obtenu une entente entre 4 mouvements armés centrafricains. De Bangui, le correspondant de VOA Afrique, Freeman Sipila.
Les 2 rencontres, organisées distinctement fin août par l'Union africaine et Moscou, ont chacune produit des résultats jugés positifs. À Boire, dans le nord-ouest centrafricain, avec l'initiative de l'Union africaine, les 14 groupes armés du pays ont harmonisé leurs revendications dans un document unique. Béranger Ludovic Lamaka, porte-parole du mouvement anti-Balaka.
Nous étions tous à Boire, les 14 groupes armés, et je peux vous dire aujourd'hui, devant Dieu et devant les hommes, que c'est un succès. Mes frères qui ont pris les armes hier, aujourd'hui, ils ont compris et aujourd'hui ils ont dit rien que la paix.
À Khartoum, au Soudan, des responsables de 4 principaux groupes armés centrafricains se sont mis d'accord pour pacifier le pays. Ils ont, avec l'appui de la Russie et du Soudan, mis en place une plateforme dénommée Rassemblement Centrafricain, en abrégé RCA. Abdoulaye Hissène, chef militaire du FPRC, Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique, l'aile dure de l'ex-Séléka.
On n'a pas trouvé cette occasion depuis longtemps. Ça fait 5 ans qu'on attendait cette occasion. 2006,
la République soudanaise nous a accepté de venir s'asseoir et discuter et trouver un compromis ensemble entre nos groupes politico militaires centrafricains. Si vous voyez un Tibaloka, et c'est le cas, c'est quand même historique.
À Bangui, la capitale, les réactions divergent. Certains centrafricains voient en ces rencontres une solution de sortie de crise. D'autres, cependant, doutent de la sincérité des groupes armés.
Nous pouvons dire que c'est une bonne initiative dans le cas où ça va donner une réaction positive dans le développement socio-économique des Centrafricains.
Le gros problème, c'est la paix. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour la paix en République centrafricaine.
Moi, j'accepte qu'ils ne changent pas d'avis.
La signature d'un pacte n'est pas seulement le papier. C'est la pratique qui va nous permettre de juger mieux dans l'avenir.
La société civile salue ces initiatives en faveur de la paix, mais attend des actes concrets de la part de ces groupes armés. Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile.
À mon avis, la balle est plutôt dans le camp des groupes armés. C'est signe de bonne foi qu'ils montrent. Il faut que ça soit réellement sincère. Nous, ce n'est pas les déclarations, tout ce qui est signé, ce n'est pas ça qui compte. C'est les actes sur le terrain, c'est le comportement sur le terrain qui va nous démontrer qu'effectivement nos compatriotes ont pris conscience que ces frères qui sont venus des autres pays africains qui ont alimenté cette crise ont pris conscience qu'il faut arrêter pour aller aux négociations.
Ces deux rencontres devront faciliter la tenue prochaine d'un dialogue en préparation par l'Union africaine entre le gouvernement et les groupes armés. Freeman Sipila pour VOA Afrique, Bangui.
Cameroun, rentrée scolaire sans livres pour la plupart des élèves ce lundi. Les libraires accusent certaines maisons d'édition d'être à l'origine de cette situation. En tout état de cause, désespoir des enseignants et des parents d'élèves, comme a pu le constater notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Nous sommes au carrefour Vombi à Yaoundé. Attirés par un message publicitaire d'une librairie, les parents d'élèves font la queue. Ils espèrent tous acheter les nouveaux livres inscrits au programme pour le compte de l'année scolaire 2018-2019. Mais après avoir visité les rayons de la librairie, la désillusion est grande pour Marie-Jeanne, un parent d'élève.
J'ai trouvé le livre des mathématiques et de français pour la classe de la CIL. Mais pour la classe du cours élémentaire deuxième année, il y a seulement le livre des sciences. C'est pénible.
Dans la plupart des librairies de Yaoundé, le constat est le même. Les livres sont introuvables. Prosper Walenga est propriétaire d'une librairie au quartier Kondangui.
Nous avons 6 à 7 éditions des livres que nous ne trouvons pas sur le marché. Toutes ces maisons d'édition-là veulent devenir une fois que des vendeurs, des distributeurs, des fabricants de livres. Ceux qui essayent de nous donner un peu de livres ne sont pas les favoris dans la liste officielle des livres.
Les livres du cycle secondaire francophone, des disciplines comme la géographie, la physique, la chimie ou les mathématiques manquent sur les rayons des libraires. Côté section anglophone, l'une des principales maisons d'édition dirigée par un Camerounais semble moins alarmante sur la disponibilité de ses titres. Rogers Forgway, président de MMI Education.
Je me suis battu à avoir 78% de mes titres disponibles dans le marché, considérant le fait que la liste avait été publiée en retard et que j'ai 69 titres combinés dans le primaire francophone, qui représente la grande majorité de la population d'élèves au primaire. Les éditeurs qui sont là-bas ne semblent pas être prêts même à 10%.
Face à ce problème, certains chefs d'établissement scolaire ont dû prendre des mesures conservatoires pour un démarrage effectif des cours ce lundi, même sans les livres scolaires. Marie-Jeanne et Paul-Éric, enseignants à Yaoundé.
Les livres ne sont pas disponibles, mais qu'à cela ne tienne, il y aura quelques spécimens qui vont venir, qui seront mis à la disposition des élèves pour la bibliothèque par groupe. Les élèves pourront venir fêter ces livres pour faire l'exercice.
Dans notre cadre, dans mon enceinte, on a remis encore l'ancien manuel pour que les élèves ne puissent pas perdre le temps en classe. Compte tenu que la hiérarchie nous a fait comprendre que le manuel était censé arriver le 15 août, mais avec le retard, et c'est plutôt renvoyé à la fin du mois, soit de septembre, soit d'octobre.
Dès cette année scolaire, le gouvernement camerounais a réduit le nombre de livres par discipline. C'est cette réforme, selon les experts de l'édition, qui a provoqué la rareté des livres scolaires. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h dans une. universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.